Radio Tamani, voici nos informations en français.
Vous nous suivez sur 85 radios partenaires de l'URTEL sur l'ensemble du territoire. Merci pour la fidélité et bienvenue à cette édition de 8h. La désignation du futur président, du vice-président et du premier ministre de la transition suscite des réactions diverses au sein de l'opinion nationale. Et entre un militaire et un civil, les Maliens restent divisés sur la question malgré les mises en garde de la CEDEAO. Le Mali célèbre le 22 septembre prochain son 60e anniversaire de l'indépendance. Cette célébration intervient dans un contexte où le pays fait face à une crise multidimensionnelle. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce matin au tourisme dans la région des Sikasso. Depuis 2012, le secteur est confronté à d'énormes difficultés. Ses responsables lancent un cri de cœur aux autorités. Plus de détails dans un instant, une présentation de Moumine Senebou, Mizanon Mamadou Ouattara. Le collège chargé de désigner le président, le vice-président et le premier ministre de la transition a été mis en place ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé le Comité national pour le salut du peuple CNSP. Si pour certains observateurs, la mise en place de ce collège n'est pas anticonstitutionnelle, du côté de la population, les avis sont partagés. Au même moment, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, réitère sa demande de nomination rapide d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Maman Baba Kunta nous en dit plus.
Pour certains observateurs, la convocation du collège par les CNSP n'est pas une violation de la Constitution. Selon le sociologue Mahamadou Diouara, la transition est prévue dans la Constitution du 22 février 1992.
Le titre 13 de la Constitution du 22 février 1992 porte sur des dispositions transitoires. Donc elle consacre cette Constitution, la transition, comme une période de gouvernance démocratique. Et elle intervient lorsqu'il y a défaillance dans le fonctionnement normal de la démocratie. Et l'article 122 de la Constitution stipule que en transition, donc, le CTSP et le gouvernement prennent l'ensemble des mesures nécessaires au bon fonctionnement des pouvoirs publics. C'est pour cela qu'on est parti vers des concertations nationales qui ont rassemblé les forces vives de la nation, et ces forces vives de la nation ont consenti à une charte de transition. Cette charte de transition stipule que le président du CNSP procède à la désignation du président sur la base des critères cités dans la charte à travers un collège électoral qu'il convoque lui-même.
Du côté de la population, les avis divergent. Pour certains, ce collège dont les membres ont été essentiellement choisis par le CNSP ne dispose pas d'une grande manœuvre et l'indépendance nécessaire pour choisir un civil. C'est pourquoi ils craignent que ce collège pourrait favoriser une transition militaire. D'autres, par contre, souhaitent dans l'intérêt du pays qu'ils choisissent un civil à la tête de la transition.
Ça, les CNSP, là, moi, je ne les comprends pas du tout. Ils ont venu, ils ont fait un beau discours, ils ont dit qu'ils ont parachevé le travail du peuple malien, donc ils vont rendre pouvoir au peuple malien. Après, je vois qu'ils sont en train vraiment de confisquer le pouvoir. Donc, ça n'arrange pas personne au Mali. Qui rend le pouvoir aux civils et puis qui rentre dans les casernes.
Civils et militaires, ensemble, j'aimerais qu'ils gèrent la transition pour sortir le pays de cette crise.
Même si c'est le président est militaire, mais que tout soit bien là-dedans, que tout soit discuté, surtout la Constitution.
La CEDEAO a pris sa décision avant nous, donc on ne peut que se limiter à ça maintenant.
Ce n'est pas le CEDEAO qui peut faire le Mali, ni la France. Ce que ces jeunes ont dit, il faut quelqu'un qui est capable.
En attendant les décisions de cet organe, la CEDEAO menace le Mali d'un embargo général si le Comité national pour le salut du peuple se maintient à la tête de cette transition.
Toujours par rapport à la question de cette transition, le Comité national pour le salut du peuple prévoit ce soir une rencontre de haut niveau avec le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Retrouvez ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Elles sont également disponibles sur nos pages Facebook et Twitter. Le 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, le pays célèbre ce 60e anniversaire au moment où une bonne partie du territoire est occupée par des groupes armés, ce qui signifie la présence de forces étrangères sur le sol malien. D'où cette interrogation de certains observateurs sur le pays est-il réellement indépendant. Notre série de productions sur le 22 septembre tente de répondre à cette problématique. Regard croisé signé Maliki Diallo.
D'un point de vue du droit, le Mali est absolument un État indépendant, tranchent certains juristes qui reconnaissent en revanche que dans les faits, la question est véritablement problématique. Docteur Kalilou Sidibé, professeur de droit international à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Juridiquement, le Mali est un État indépendant parce que c'est un État qui répond aux critères dégagés, ça veut dire un territoire, une population et un pouvoir politique organisé. C'est un État qui a la plénitude du pouvoir, les compétences exclusives et l'autonomie constitutionnelle. Et cela est consacré également par la Charte des Nations Unies. C'est à partir de cela que sa souveraineté nationale et internationale est reconnue.
Si le Mali répond juridiquement aux critères d'un État souverain, son indépendance est loin d'être acquise sur le plan économique. Renchérit Dr Kalilou Sidibé. Pour cet universitaire malien, la mainmise du pays colonisateur sur notre système monétaire constitue un facteur de dépendance du pays.
Si un État n'est pas indépendant économiquement, c'est qu'il ne l'est pas politiquement, parce que la politique tient l'économie. C'est le problème des États issus des processus coloniaux, dont les économies ont été reliées à l'économie de l'ancienne puissance coloniale. Et on oublie souvent même la politique.
Les économistes n'en pensent pas moins. En plus de la dépendance économique et politique, certains mettent en cause la souveraineté territoriale du Mali à cause, disent-ils, du pillage de ses ressources naturelles. Selon eux, les communautés doivent bénéficier des dividendes de l'exploitation de leurs ressources par les multinationales. Professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, directeur du Centre d'études stratégiques Sénin.
Un pays qui a la souveraineté économique, c'est avant tout quand les collectivités territoriales qui composent la nation ont la garantie du droit de propriété sur leurs ressources naturelles. Les ressources naturelles qui sont dans chacune des régions du Mali, eh bien, il nous faut mettre en place des élus locaux issus de la population locale pour exercer la garantie du droit de propriété sur les ressources naturelles. Il faut que les comités de localité ne soient pas privés de leurs moyens propres de subsistance.
Pour un Mali indépendant, le juriste et l'économiste recommandent la mise en place d'institutions fortes au service du peuple. Toutefois, ils n'ignorent pas l'influence de la mondialisation sur l'indépendance des États.
Direction à présent Sikasso. Depuis la crise de 2012, le tourisme fait partie des secteurs les plus touchés dans la région de Sikasso. C'est ce qu'affirment les responsables de la direction régionale du tourisme et de l'hôtellerie. Selon eux, cette situation est à la fois due à l'insécurité, à la pandémie de Covid-19 et à la récente fermeture des frontières par la CEDEAO. Les artisans de la région se disent plus affectés par cette crise qui, selon eux, empêche le secteur de l'artisanat de se développer et de nourrir son homme. Plus d'explications avec Ousmane Yalibouli, notre envoyé spécial à Sikasso.
Ici, dans la cité de Kinédougou, le tourisme ne se duplie. Les hôteliers, les guides et les artisans disent vivre dans des conditions pénibles. Selon eux, depuis près de 10 ans, le secteur touristique souffre et n'attire plus les étrangers. Pour le directeur national du tourisme et de l'hôtellerie de Sikasso, le tourisme vit simplement au ralenti dans la région. Sanoussi Traoré.
C'est vrai, Sikasso est un peu épargné par rapport à tout ça, mais si le Mali est placé en zone rouge, il va de soi que Sikasso aussi va sentir un peu. Le tourisme étant un secteur où la mobilité est demandée, et s'il n'y a pratiquement pas de mouvement, il va de soi que le secteur va le sentir. Donc en ce qui concerne les hôtels, pratiquement il n'y avait rien comme client en réalité, parce qu'il y a ces hôtels qui peuvent faire un mois, deux mois, sinon trois mois sans qu'un seul client passe la nuit.
Yaya Eli Bamba est guide transcripteur au centre culturel Sénéfou de Sikasso. Selon lui, c'est seulement avec quelques touristes nationaux que les guides locaux parviennent à s'en sortir. Et cela en combinant avec d'autres activités.
Quelques visites nationaux, mais les touristes étrangers, on n'en voit même plus. Avant la pandémie, vraiment, ils venaient. Il y a l'insécurité dans un pays. Il n'y a pas de choix de zone. Ils préfèrent se retirer pour de bon. Les peu qu'on continue à gagner là-dedans, on ne perd pas espoir. On sait qu'un jour, ça peut venir. Ce n'est pas ce côté visite qui fait vivre les guides. Les guides participent à d'autres activités.
Si les guides arrivent à se débrouiller un peu, la situation est plus compliquée chez les artisans. D'après les tisserands, les personnes qui exercent ce métier vivent aujourd'hui dans les calvaires. Gouro Diara est tisserand à Sikasso.
On ne gagne plus rien maintenant. La pandémie de coronavirus nous a mis au chômage technique. On ne sait pas quand est-ce que tout cela finira. Nous vivons grâce à Dieu, sinon ça ne va pas du tout.
En attendant la levée des sanctions par la CEDEAO et la fin de la maladie à coronavirus, ces artisans et travailleurs d'hôtel prennent leur mal en patience. Depuis Sikasso, Ousmane Yalibouli pour Studio Tamani.
Parlant maintenant de la COVID-19, à la date de ce jeudi 17 septembre 2020, sur 383 échantillons testés, les autorités sanitaires ont enregistré 17 nouveaux cas positifs, 8 patients guéris et 0 décès, ce qui fait au total 2983 cas positifs, dont 2319 guérisons et 128 décès. Place à présent à ActiCovid, notre bulletin d'information sur le coronavirus. Les contractuels de l'unité de prise en charge de COVID-19 de l'hôpital du Mali sont en grève depuis mercredi dernier. Cet arrêt de travail est dû, selon eux, au non-paiement de 3 mois de salaire. Face à cette grogne des agents sanitaires, les responsables du centre tentent de rassurer. Selon eux, des négociations sont en cours pour résoudre le problème. Reportage de Khalifa Goïta.
Cette grève illimitée fait suite aux promesses non tenues de l'administration de l'hôpital du Mali. C'est ce que déclare le porte-parole du collectif des agents grévistes. Les agents concernés exigent le paiement de leurs arriérés de salaire. À cela s'ajoute la question des primes dans le cadre de la prise en charge du coronavirus. Docteur Elissi, porte-parole du collectif des grévistes.
Les travailleurs étaient fatigués, ils avaient besoin de leur argent. On voyait que les choses n'allaient pas du tout. Ce qui est sûr, nous, on ne va pas baisser les bras.
Pour les responsables du centre de prise en charge de la COVID-19 de l'hôpital du Mali, ce retard du paiement des salaires s'explique par la crise sociopolitique que traverse le Mali. Malgré ces difficultés, il rassure le personnel. Docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 de l'hôpital du Mali.
On a fait notre expression de besoin par rapport à la prise en charge de ce personnel. Au moment où on s'attendait vraiment à une prise en charge ou à un envoi de délégation de mandat pour pouvoir les payer, il n'y avait pas de réponse. Alors au jour d'aujourd'hui, ces questions sont réglées. Tout contraire, ils vont pouvoir être payés dans cette semaine. Mais malgré tout, ils ont tenu quand même à manifester.
À signaler qu'à la date du 17 septembre 2020, 46 patients de COVID-19 sont pris en charge à l'hôpital du Mali, dont 28 hospitalisés et le reste suivi à domicile. Au total, le centre a assuré la prise en charge de plus de 650 malades depuis le début de la pandémie, indiquent les responsables de la structure.
La région du Ségou compte à la date du 16 septembre 2020 29 cas confirmés de COVID-19, dont 9 femmes. Au même moment, elle enregistre 22 patients guéris et 7 décès. Ces chiffres ont été communiqués par les autorités sanitaires de la région lors d'une journée d'information et de sensibilisation sur le coronavirus. Suivons à présent la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par professeur Daouda Kassoum Menta, spécialiste des maladies infectieuses au CHU du Pongé.
Allô docteur, est-ce le fait de s'embrasser ou de se câliner peut transmettre le virus?
Bon, quand vous regardez par définition la voie de transmission directe et indirecte, il y en a qui l'ont évoqué, mais pour le moment on n'a jamais décrit de cas de ce genre. Mais il faut faire un dépistage des uns et des autres. Beaucoup l'ont recommandé, mais on n'a pas décrit de cas chez des gens qui n'ont pas fait de dépistage.
Merci professeur Menta pour ces précisions. C'est sur ce point qu'on se quitte à la semaine prochaine pour d'autres informations sur le coronavirus. Virus. Pour vous protéger de la maladie, évitez les poignées de main et les accolades.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Nous poursuivons cette édition avec l'actualité dans la région. Plus d'une centaine des membres des groupes de soutien et d'action nutritionnelle renforcent leurs capacités depuis ce mercredi à Yorosso sur le développement et la survie de l'enfant. Cette session permettra aux participants de connaître l'importance du moustiqueur, de la pratique de l'allaitement maternel et de la consommation par l'enfant de la bouillie enrichie. Cette rencontre qui prend fond ce matin est financée par l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition. 6 projets d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA ont été présentés ce mercredi à la préfecture de Bourem. Il s'agit des 4 projets d'embauche bovine, un projet de maraîchage et un autre de transformation de produits agricoles. Ces projets ont été financés par le Luxembourg afin de contribuer au développement local. Et c'est ce qui boucle cette édition. Merci pour votre aimable attention. Ne décrochez pas. Je vais céder la place à Idrissa Sako pour le journal en Bamanakan juste après le magazine.
C'est dans ta manie.